Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire d'un garçon qu'un jour on a enfermé contre son gré dans un hôpital psychiatrique. Pour rien, il n'avait aucune pathologie. Il est resté prisonnier par la seule volonté d'un psychiatre. Ce garçon s'appelle Marius Jauffret, il en a fait un livre qui paraît chez Anne Carrière, Le Fume-moi. Et il sera là tout à l'heure. Son histoire est l'histoire de 82 000 Français chaque année, qui sont internés d'office à la demande d'un tiers. 82 000, c'est 12 000 de plus qu'en prison. J'ai écrit cette histoire avec Tuc Dual de Dieu le veut, réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Ma première cuite au rhum Negrita, celui qui sert à flamber les crêpes. Et j'y apprends que je tiens mieux l'alcool qu'un Polonais défiant deux Biélorusses. Aujourd'hui, je vis d'un litre de Label 5 par jour et deux bouteilles de Coca. J'embraye après cinq verres. L'alcool m'apporte une sérénité. Une sérénité qu'il m'est impossible de trouver dans la lucidité. L'alcool me permet de supporter une angoisse que sans lui, j'aurais abrégée en sautant du septième étage. Un soir, place des Vosges à Paris, je suis à la terrasse d'un café, bien décidé à déprimer tranquille. Mes mains se mettent à trembler. Le manque d'alcool. Je dois boire encore. S'il vous plaît, ça serait possible d'avoir une leffe avec une paille? Il m'apporte la bière sans commentaire et sans paille. Mais il y a 2000 chèques abandonnés sur la table d'à côté, alors j'attrape la paille la moins mordillée et j'aspire ma bière à petites gorgées. Mais j'ai à peine fini que mes mains et mes jambes se mettent à trembler plus fort. La crise s'annonce. Mon frère, Thomas, habite dans le coin. Alors est-ce que je me suis mis à cette terrasse dans l'espoir qu'il tombe sur moi? Mon frère, c'est la seule personne à qui je peux parler sans faire semblant. Et d'ailleurs, le voilà.
Marius, t'es encore bourré, c'est ça? Fous-moi la paix!
Il m'attrape par le bras pour m'arracher à la terrasse et je me retrouve cul par terre.
J'ai besoin d'un truc fort. De la morphine. De la vodka.
Il me parle, mais je ne suis pas en mesure de l'écouter.
Laisse-moi crever.
Et là, comme un coup de couteau me traverse la tête, je fais un dernier effort pour me mettre debout.
Marius ? Marius, tu m'entends ? Marius, réponds-moi, Marius ! Taxi ! Taxi !
Mon frère me jette sur la banquette arrière.
Qu'est-ce qu'on fait là ? On va où ? Marius, t'es trop mal pour que je te laisse dans cet état.
La voiture s'arrête sur un parking cerné de grilles.
Allez Marius, sors. C'est la Riboisière ?
Non, c'est Sainte-Anne. Avec tes crises de panique, les médocs que tu prends, l'alcool, c'est mieux de venir ici. Sainte-Anne, c'est le grand hôpital psychiatrique de Paris. Je m'en remets à son intuition, à son pragmatisme. Il sonne. Un type apparaît, l'air bad boy, avec les cheveux gras et les aisselles auréolées de sueur.
C'est mon frère, il a trop bu. J'ai peur qu'il fasse un malaise. Ok, on va l'examiner.
Je me dis, demain je serai requinqué. On me donnera un nouveau traitement pour la dépression, des cachets plus efficaces que le Valium, et peut-être qu'on me recommandera un psychiatre, plus talentueux que les charlatans que j'ai consultés jusqu'ici. Ou mieux, un addictologue, qui se prendra pour le docteur Freud. Bonjour, monsieur Geoffrey. Je suis le psychiatre qui va vous examiner. Je peux sortir 2 minutes pour fumer? D'accord. Marco, tu peux l'accompagner? Pendant ce temps-là, à l'intérieur, le psychiatre discute avec mon frère. Mon frère m'embrasse. Je reviendrai demain matin, Marius. Hein, tu vas passer la nuit ici. Je viens te chercher à 9h, hein? 9h, c'est bien, docteur? Et demain, j'ai pensé que si t'étais en forme, ben, on pourrait se faire un petit footing. Mon frère s'est peut-être un peu emballé. Le bureau du psychiatre est étroit comme un cachemire. Alors, qu'est-ce que vous avez bu avant de venir ici? Eh ben, je dirais l'équivalent d'une bouteille de whisky. D'accord. À quelle heure est-ce que vous avez commencé? Ben, je crois qu'il était 18h au réveil, quoi. Vous avez pris autre chose? Cannabis, cocaïne, médicaments? J'ai pris un Valium pour me calmer, parce que sinon je peux même pas sortir faire mes courses. Bien. Marco, vous l'accompagnez pour une prise de sang. Bon courage. Après la prise de sang, Marco ouvre une porte à coups de pied. Assieds-toi là. Déshabille-toi, je vais te piquer dans la fesse, ça va te faire un peu mal. Voilà. Et là, il sort des sangles, des sortes d'élastiques en caoutchouc, et il m'attache par les pieds au barreau du lit. Mais pourquoi est-ce qu'il m'attache ? Il finit par me détacher et me changer de chambre. Et quelques heures plus tard, c'est le matin. Et mon frère est de retour. Monsieur Geoffrey? Bonjour, je prends la suite du psychiatre qui vous a vu cette nuit. Alors monsieur, la situation de votre frère nous apparaît complexe. Hein. Il risque de développer ce qu'on appelle un syndrome de Korsakoff. C'est une maladie qui est un peu bon, comme un ver qui grignote une pomme. C'est-à-dire que le corps et l'esprit s'en vont en quelques années, jusqu'à ne plus marcher, avec des troubles de la mémoire, d'abord immédiates, et puis ensuite des délires, la démence, et puis la cécité. C'est donc pourquoi je propose que votre frère soit hospitalisé au plus vite. Mon frère est ingénieur. En général, il est du genre qui croit à la science. Mais là, il émet de gros doutes. C'est-à-dire que mon frère était bourré hier soir. Et il est bourré tous les soirs. Alors je comprends qu'il faut prendre en charge son sevrage. Mais là, ce que vous me dites là, je suis pas sûr quoi. Vous n'êtes pas médecin, monsieur. Il est de ma responsabilité de placer votre frère dans un établissement adapté à son état. Et d'ailleurs, si je le faisais pas, vos parents auraient le droit de m'attaquer. Bon, alors vous signez ici. C'est quoi? Eh bien, c'est une hospitalisation à la demande d'un tiers. C'est un document légal. Vous voulez faire interner mon frère? Mais enfin, elle est venue ici de son plein gré. Et où est-ce que vous comptez l'hospitaliser? Alors, c'est sectorisé, hein. Donc pour lui, ce sera dans le 13e arrondissement. Bon, si c'est pas vous qui signez, ce sera moi, hein. Je suis habilité à le faire. Mais disons que ça serait préférable que ce soit vous, quoi. Je vais rester combien de temps là-bas? 2 jours, sans doute. Allez, signez. Et il a signé. Et là, 2 infirmiers me prennent par les épaules, ils me saucissonnent sur un brancard, les bras et les pieds attachés. et l'ambulance démarre en trombe vers le groupe public de santé Perrault-Vaucluse, dans le 13e arrondissement. On me détache, lien par lien. Vous allez voir l'infirmière en chef. Et là, une grosse dame aux cheveux rêches fait son apparition au bout du couloir. Et elle se laisse tomber comme une pierre sur sa chaise. Bon, ici c'est un arrondissement parisien par étage, donc vous habitez le 9e, et ben donc vous êtes au 3e. Je peux voir le psychiatre, le docteur Faucon. Il vous verra en temps voulu, hein, et vous fera un bilan avec lui dans les jours qui viennent. Les jours qui viennent? C'est mauvais signe, ça. Au 3e étage, on m'introduit dans un cagibi blanc avec une odeur de vieux. Bon, ben, voilà votre chambre, hein. C'est la numéro 313. Bon séjour, monsieur. Je passe la main sur le couvre-lit. Il est râpe comme de la corde. Une corde. Une corde. Je balance un regard circulaire. Je pourrais en faire une corde. Et cette corde, je pourrais l'accrocher à l'applique en ferraille qui accueille le néon. Et après, je pourrais faire un nœud coulant en 8. Je sais le faire, j'ai fait 10 ans de catamaran. Parce que ces 4 mètres carrés de cellule, je ne m'y habituerai pas. Je ne m'y habituerai pas, jamais. Le réfectoire est une usine. Les cuisiniers servent à la louche et à la chaîne. Il faut manger, c'est tout. Manger comme on pisse. T'es nouveau, toi?
Oui, je suis arrivé cet après-midi.
Moi, c'est Kiki. Et toi?
Moi, c'est Marius.
Oh, Marius! C'est quoi ce nom? Il y a des parents, je te jure, faudrait les mettre en prison. T'es sous quel régime?
Hospitalisation sans consentement.
Oh! Il n'y a pas pire régime. Tu peux plus partir quand t'es sous ce régime.
Ah, mais moi, je dois sortir dans 2 jours.
2 jours? Moi, j'ai connu personne qui soit resté 2 jours ici.
Et toi, t'es là depuis combien de temps?
Eh ben, 2 ans.
2 ans. Je me vois tomber d'une falaise, m'écraser sur les rochers. Même s'il raconte qu'il est là parce que il a sectionné les couilles de l'amant de sa copine.
Le lendemain, me voilà face au docteur Faucon. Alors, jeune homme, comment vous sentez-vous dans cette unité?
Ben, j'ai rien contre cet endroit, hein. Mais pour tout vous dire, je me sens pas à ma place, quoi.
Je vois. Pourtant, vous avez un dossier chargé, hein. Alcoolisation massive, prise anarchique de médicaments, isolement social, risque de fugue, trouble de la personnalité.
Ben, risque de fugue. Je comprends pas, je suis majeur.
Oui, enfin, je lis qu'à Sainte-Anne, vous avez quitté votre chambre sans autorisation.
Mais c'était pour aller à l'accueil, monsieur.
Bon. En premier lieu, nous allons mettre en place votre sevrage. Et puis, dans un deuxième temps, il faudra...
Il a choisi de me maintenir en observation. Et l'infirmière me verra pour le traitement. Docteur, en général, combien les gens restent ici?
Il me dit qu'il ne peut rien me certifier, qu'il n'y a pas de règles. Alors je lui réponds que pour moi ça ira sûrement vite, que ça n'est qu'un problème d'alcool. Et là il élève la voix et il me met à la porte, sans même m'accorder l'onction de sa poignée de main.
Monsieur Geoffrey, tenez, voilà du Largactil, et puis tenez, voilà votre Valium.
Le Largactil. Ils en donnent à tout le monde. C'est un neuroleptique qui existe depuis 1951. On l'appelle la camisole chimique. Elle transforme les patients en pierre. Ça fait une semaine que je trimballe ma carcasse de couloir en couloir à la recherche du docteur Faucon. Aujourd'hui, mon frère est venu me rendre visite. Et justement, voilà le docteur Faucon.
Docteur Faucon ?
Bonjour. Je suis Thomas Geoffrey, le frère de Marius. On s'est parlé au téléphone. Nous avions rendez-vous. Vous m'avez dit qu'on pourrait s'entretenir à propos de mon frère. Monsieur, s'il vous plaît. Bon, 5 minutes, hein ? Pas plus. Voilà. Maintenant qu'il est sevré, je pensais que mon frère pourrait continuer de se soigner en ambulatoire, quoi. J'ai contacté un psychiatre et il s'engage à le suivre à l'extérieur.
Oui. Mais je vais le garder encore en observation.
Il n'y a pas de recours ?
Vous pouvez écrire au directeur, mais je pourrais m'opposer à sa décision. Quoi qu'il en soit, à un moment, il sera présenté au juge des libertés.
Ça servira à quelque chose ? Enfin, docteur, vous êtes incapable de poser un diagnostic. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a passé des examens qui concernent le syndrome de Korsakoff ?
Korsakoff ? Mais de quoi est-ce que vous me parlez ? Enfin, il est beaucoup trop jeune pour Korsakoff. Bon, au revoir, monsieur.
Pourquoi est-ce que je n'entamerais pas une grève de la faim ? Je pourrais informer les médias, je pourrais lancer une pétition sur Internet, écrire au président de la République. Pourquoi je ne fais rien ? Parce qu'ici, on dresse les patients. On nous inocule le respect de la psychiatrie, en même temps que le Largactyle. La seule personne qui a le droit de me faire sortir, ça n'est pas mon frère, ça ne sont pas mes parents, ni même un juge ou un avocat. C'est le psychiatre. Le psychiatre a la main mise sur l'établissement. Aucun juge ne contrarie jamais ses décisions. Le psychiatre est au-dessus des lois et des droits de l'homme.
Monsieur Geoffrey, rendez-vous avec l'équipe psychologique, bureau G108.
Elle me fait entrer dans un bureau tapissé de moquettes grises.
Asseyez-vous. Tout d'abord, veuillez remplir ça.
C'est un QCM. Prenez-vous de la drogue ? Jamais, parfois, souvent, très souvent. Êtes-vous suicidaire ? Avez-vous des idées noires ?
Vous vous sentez bien, monsieur ?
Pour tout vous dire, non. Non, je me sens prisonnier.
Vous savez, c'est ce qu'ils disent tous au début.
Vous pouvez rien faire pour moi. Mais je suis quand même content de vous voir parce que le docteur Faucon, je le vois jamais.
Vous avez besoin de le voir ? Vous savez, il est très compétent. Hein ?
Je veux bien vous croire. Mais moi, je l'ai vu que 2 minutes depuis que je suis là.
Et puis merde, quoi ! Allez vous faire foutre !
Et là, je lui balance le questionnaire, je renverse la chaise d'un coup de pied et une alarme retentit. 2 aides-soignants fondent sur moi. Ils m'emmènent dans une chambre minuscule au 6e étage.
Pas la peine de m'attacher, hein. Je suis pas agressif.
C'est pour votre bien, monsieur.
Où est le psychiatre ? Où est le psychiatre ?
Une fille blonde se penche sur moi avec une seringue à la main et... En fin d'après-midi, le docteur Faucon me fait l'honneur de me recevoir.
Bien, tenez. C'est une convocation au tribunal concernant la procédure de contrôle d'hospitalisation sans consentement. Bon, c'est de la paperasse, hein, tout ça.
La loi du 5 juillet 2011 fait intervenir le juge des libertés et de la détention. Mais c'est une mascarade. Le juge se range toujours à l'avis du psychiatre. Et le nombre de personnes internées sans consentement a doublé en 10 ans. Aujourd'hui, on est 82 000, c'est-à-dire 12 000 de plus qu'en prison. Et plus de 3/4 des patients ne sont atteints d'aucune pathologie précise. Ils ne sont pas malades. Et leur chance de retrouver leur liberté devant le juge est de 0. Si on n'a pas de famille, si on est orphelin, c'est perpétuité. Et donc ce matin, j'ai rendez-vous au tribunal de grande instance de Paris.
Monsieur ?
Bonjour, monsieur. Je suis votre avocate. Le bureau de la juge est une petite pièce avec une grande fenêtre dorée.
Bien, monsieur. Expliquez-moi votre situation, je vous écoute.
Je lui explique qu'on ne me donne pas de médicaments, qu'on m'a retiré mes antidépresseurs et que c'est dur à supporter, que j'ai peur pour ma santé si je reste dans cet endroit.
Très bien, jeune homme. Maître, je vous écoute.
Son préchi-préchat rempli de poncifs dure à peine 2 minutes.
Bien. Au revoir, monsieur. Le délibéré aura lieu vers 13h.
Et il tombe par fax à mon retour à l'asile. Ordonnons la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet monsieur Marius Chauffret. Ça fait 15 jours que je suis coincé ici. 15 jours de tôle. 15 jours qu'on me balance du monsieur comme une balle à un labrador. On le garde en observation, le monsieur. Il va prendre son traitement, le monsieur. Faut manger, le monsieur. Faut se lever, le monsieur. Je reviens de la visite rituelle au distributeur de boissons au rez-de-chaussée. Et la surprise, je vois le docteur Faucon foncer sur moi.
Ah ! Je vous cherchais.
Désolé, docteur, j'étais en bas pour boire un café.
Venez. J'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. J'ai eu votre frère au téléphone. Il dit qu'il n'y a pas d'inconvénient à ce que vous logiez chez lui pour un temps indéfini. Or, il se trouve que je prends mes congés à la fin de la semaine. Et je ne vous cache pas que je vous aurais bien gardé en observation pour quelque temps encore, mais nous nous sommes mis d'accord avec votre frère pour vous faire sortir vendredi. Vous en pensez quoi ?
Ben, je pense que c'est un bon compromis.
Je le pense aussi.
À présent, comme tout bon tôlard, je connais la date de ma libération. J'aurais été enfermé 17 jours, 22 heures et 33 minutes. La moyenne nationale est de 2 mois pour 80 000 de mes concitoyens. Thomas m'attend sur le trottoir d'en face. Et avec toute la douceur d'un frère, il me serre dans ses bras.
Comme je l'ai dit au docteur Faucon, tu vas passer chez moi tout le restant de tes jours.
Et il me dépose chez moi. J'entre dans mon immeuble, le temps qu'il s'en aille. Et puis quand la voie est libre, je file acheter une bouteille de Jibi. Je la pose sur la table et j'imagine l'orgasme intergalactique de la première gorgée. Je tourne doucement le bouchon pour entendre le métal se rompre. Et je me verse un verre. Et je le laisse couler dans ma gorge. De toutes petites gorgées pour laisser monter lentement l'ivresse. Les bouteilles passent, et les jours. Allongé sur mon lit, je ne sors que pour me ravitailler au Franprix. Quand mon portable vibre, je l'éteins. Quand le facteur toque, je ne lui ouvre pas. Tant mieux si on me croit mort. La peur de l'enfermement, la peur que les psychiatres viennent me prendre. Elle me hante jour et nuit. Les voisins que je croise sont de potentiels flics en civil. Peur d'être arrêté. Et chez moi, je me déplace sur la pointe des pieds. Est-ce que j'ai mis la radio trop fort ? Est-ce qu'on va me signaler pour avoir tiré la chasse d'eau ? C'est du tapage, Marius ! Vous êtes écroué, monsieur Geoffrey ! Et toutes ces bouteilles que je descends dans de gros sacs poubelles bourrés de papier journal, pour ne pas qu'elles teintent dans l'escalier. Qui boit ça ? Lui ? Tout seul ? Est-ce qu'il ne faudrait pas penser à le faire soigner dans une structure spécialisée ? Et les mégots jetés dans la cour dont la gardienne se plaint, est-ce qu'ils ne sont pas à lui ? Un jour ou l'autre, on m'emmènera pour m'enfermer. Et ce jour est proche. Et puis, un matin de juillet, je me suis levé à l'aube. La veille, je n'avais bu que de la bière. J'ai écouté l'intégrale de Gainsbourg. Mieux vaut ne pas.
penser à rien que ne pas penser du tout. Rien c'est déjà beaucoup.
Et à la nuit tombée, je me suis senti mieux, paisible. J'ai ouvert en grand les fenêtres de mon studio pour laisser pénétrer les bruits de l'immeuble. Plus rien ne me faisait peur. L'homme mauvais et aigre que j'étais devenu en sortant de l'asile se bonifiait avec le temps. Je pouvais à nouveau me regarder dans la glace de l'armoire à pharmacie. Mon corps n'était plus aussi lourd. Et un matin, j'ai commencé à écrire. Si je termine mon livre, alors ce sera la preuve que ni l'asile, ni l'alcool ne m'ont détruit.
Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez.
Ah, ça fait toujours un peu de mal hein, de couper Gainsbourg, hein, n'est-ce pas, Marius Geoffrey ?
Oui, c'est vrai.
Bon, faut bien parce que d'abord, il faut peut-être situer cette histoire dans le temps. Le mois de juillet dont vous parlez, c'est le mois de juillet dernier ou celui d'avant ?
Alors, ça s'est passé en 2015.
Ouais, donc il y a longtemps,
C'est il y a longtemps.
Il vous a fallu 5 ans pour écrire le livre ?
Alors, je l'ai écrit beaucoup plus rapidement. Simplement, après, bon, il y a toute cette partie pour le faire éditer. Donc, ça prend toujours un petit peu de temps. Et j'ai pas pu l'écrire en sortant de l'asile, car j'étais dans une période vraiment où je buvais beaucoup plus qu'avant d'y entrer. J'étais terrifié, comme je raconte. Et ma seule solution était de boire de plus en plus pour pouvoir supporter.
Donc, il vous a fallu combien de temps pour vous sentir capable, en fait, d'écrire ce livre ?
2 ans et demi. Il m'a fallu 2 ans et demi, car j'étais atteint vraiment de paranoïa. Mmh. Et comme je raconte dans le livre, j'avais très peur de tout ce qui était les bruits, une sonnerie, des bruits de pas, de voisins, une porte qui claque. C'était devenu insupportable. Et ce que vous avez retenu dans votre récit, c'est vrai. La poubelle, la peur que les bouteilles teintent, ça c'est vrai.
Alors, peut-être d'ailleurs une explication sur les derniers mots de cette histoire, qui sont aussi les derniers mots de votre livre. Ni l'asile, ni l'alcool ne m'ont détruit. Concernant l'alcool, ça peut choquer. C'est-à-dire que l'idée communément répandue, c'est que l'alcool détruit. Et vous semblez défendre l'idée que, oui, peut-être un peu, mais quand même, on peut vivre avec.
Oui, on peut vivre avec. Alors, je n'ai pas voulu du tout faire, donner cette vieille morale. Aujourd'hui, je ne fume plus et je ne bois plus.
Vous buvez encore.
Il se trouve que j'ai arrêté de fumer.
Oui.
Fume comme beaucoup la cigarette électronique. Donc voilà.
Il n'y a pas d'alcool électronique.
Je bois. Non. Ça m'arrive de boire. Je fais très attention avec le passé que j'ai. Après tout, c'est légal. Donc, il n'y a aucune morale là-dessus. Non, c'est pas du tout un livre pour faire la morale aux gens.
Mais en même temps, vous savez que ça reste un sujet à traiter.
Bien sûr.
Qui peut vous jouer de sale tour.
Bien sûr. Il n'a pas été traité, car quand on enferme quelqu'un contre son gré, contre sa volonté, c'est très difficile de le soigner.
Alors, ce qu'on comprend aussi, c'est que écrire votre histoire a été votre thérapie, celle que vous ne pouvez pas vous offrir le docteur Foucault.
Oui.
Je me trompe ?
Vous vous trompez pas. Il y a eu ça et les nocturnes de Chopin.
Vous êtes pianiste ?
Je ne suis pas pianiste. Je joue du piano.
Ah oui,
je joue du piano. Chopin m'a beaucoup aidé.
Mmh.
Et l'écriture aussi. Je me sens presque protégé maintenant que j'ai écrit ce livre. C'est très étonnant. Le fait d'avoir comme ça tout déballé, je me sens presque protégé de cette possibilité d'être à nouveau enfermé.
Je peux vous offrir une piste ? Ça me donne l'occasion de dire que vous êtes le fils de Régis Geoffrey,
oui, bien sûr,
qui est l'un des romanciers les plus populaires en France, un écrivain contemporain très célèbre. Je me suis dit que sans doute écrire était pour vous une obligation, puisque en général les enfants de vedettes disent que pour exister dans le regard de leurs parents, qui sont assez absents de leur adolescence et de leur enfance, il leur faut faire la seule chose qui les valorise, c'est-à-dire la même chose qu'eux. Et que donc, d'une certaine manière, peut-être dans cette expérience, vous avez réglé un compte avec votre papa.
Alors, c'est pas du tout un compte que j'ai réglé, en fait, car j'ai une relation très très lumineuse avec mon père. Mais par contre, ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est que mon père est fou de joie, et je le vois fier de moi, vraiment très très fier de moi. Et ça m'emplit d'un bonheur absolument extraordinaire.
Mais écrire était une nécessité pour qu'il soit fier de vous. Non, sans induite,
sans doute. Sans doute, cela en faisait partie, oui.
Mmh.
Oui.
Alors, si on reprend l'histoire au début,
oui.
Il y a un truc qui m'intéresse bien aussi dans le non-dit, c'est que vous dites, est-ce que je me suis pas installé à cette terrasse de café où je vais faire ce malaise, en fait, tomber bourré, être bourré par terre, parce que je sais que mon frère habite dans le coin et que, d'une certaine manière, je me place sous sa protection. La réponse est oui.
Oui, évidemment. Évidemment.
Donc il y a un SOS.
C'était une alarme, c'était un appel. C'est pour ça que je l'ai suivi sans broncher dans le taxi et que moi aussi, à la place de mes parents, de mon frère, moi aussi j'aurais signé. Parce que quand on vous annonce que votre fils va devenir un légume parce qu'il a contracté le syndrome de Korsakoff, que vous n'êtes pas médecin ni infirmier, vous signez.
Oui.
Parce que c'est présenté comme une horreur.
Vous ne lui en voulez jamais, même sur le moment.
Non, absolument pas, mais je perçois tout de suite que ce syndrome de Korsakoff n'existe pas chez moi et que c'est un prétexte pour m'envoyer dans cet hôpital du 13e arrondissement, et je vais le nommer, c'est l'hôpital Henri Hay.
Donc, ce soir-là se met en place une sorte d'engrenage, en vérité, c'est-à-dire à partir du moment où votre frère a signé cette hospitalisation, qui est soit sous contrainte, auquel cas c'est le psy, et puis soit à la demande d'un tiers, auquel cas c'est le frère, vous ne pouvez plus sortir ni de vous-même, ni de son initiative à lui. Donc la morale de ça, c'est quoi? C'est qu'il faut jamais aller aux urgences psychiatriques?
Je pense qu'il faut jamais aller aux urgences psychiatriques. Moi, quand je suis arrivé là-bas, il n'y avait personne. Je ne sais pas si c'est pour cette raison, pour remplir finalement des chambres qu'ils m'ont interné, mais il n'y avait personne. Et c'est vrai que, comme je raconte dans mon livre, on voit des personnages. Il y a cette femme qui est internée sur demande de son employeur, qui est un opérateur téléphonique, qui a subi du harcèlement moral, et donc elle gifle son supérieur et elle se fait interner
par
le patron, qui n'est absolument pas médecin. Et si vous voulez, elle reste là-bas. À partir du moment où elle n'a pas de famille, ou qu'elle n'est pas mariée avec quelqu'un qui peut faire du forcing pour la sortir de là, c'est mal barré pour elle.
En revanche, moi, je n'ai pas lu que vous rejetez l'idée que vous méritez à ce moment-là, enfin à ce moment-là, avant et après, la psychiatrie.
Je ne rejette pas l'ensemble des psychiatres. Par contre, c'est un système vraiment technocratique où tout le monde se soutient. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de contre-expertise, on passe devant un juge, mais le juge, n'étant pas psychiatre, suit toujours l'avis du psychiatre. Alors, pourquoi il y a un juge dans ces cas-là? Parce que si on met un juge, normalement, il devrait pouvoir demander une contre-expertise. Quand le patient, entre guillemets, lui dit qu'il n'est absolument pas malade et qu'il peut retourner chez lui, car c'est ce que j'ai dit. Et là, on voit qu'en fait, le juge, c'est un juge fantoche. C'est le dindon de la farce, mais il n'est pas obligé d'être le dindon de la farce. Personne n'est obligé de faire partie de ce système. C'est trop facile.
Je m'aperçois qu'à dans la manière que j'ai eu de tracer votre histoire à travers votre livre, c'est jamais facile, parce que le bouquin est beaucoup plus riche, je le répète ça souvent, que le récit que je peux en tirer, on ne comprend pas forcément le titre. Le fumoir, oui. Parce qu'en vérité, quoi, la cigarette, c'est à peu près le seul moment de liberté qu'on vous laisse là-bas.
C'est la seule activité qu'il y a là-bas, dans cet hôpital à Henri Hay, c'est fumer. Donc, c'est le fumoir, vous êtes à l'extérieur, alors vous profitez vraiment du temps, c'est-à-dire dans tous les sens du terme. Ce n'est pas couvert, donc quand il pleut, vous êtes mouillé. Quand il fait froid, vous avez froid parce que vous êtes en pyjama.
Oui.
Quand il fait chaud, vous avez chaud parce que vous êtes en pyjama. Et vous profitez du temps qui passe en fumant. C'est la seule activité. Et j'aimerais tellement vous dire qu'il y a d'autres choses à faire, mais non. C'est fumer clope sur clope.
Mais c'est là aussi que vous rencontrez beaucoup de gens. Que
exactement.
Vous parlez avec eux. Je vous laisse le choix un peu des personnages que j'ai pas pu faire vivre, de tous ces gens que vous avez rencontrés, dont vous relatez l'histoire dans le livre. Un personnage qui, finalement, vous ressemble, mais qui a pas votre chance. C'est-à-dire qu'il y a pas le frère qui se bat à l'extérieur pour le faire sortir, et puis qui s'appelle pas Geoffrey.
Alors lui, c'est l'orphelin. C'est quelqu'un qui n'a pas de parents, qui est arrivé là-bas parce qu'il était dans la rue avec sa bière. Il n'avait fait de mal à personne. Là, en l'occurrence, c'est les psychiatres qui l'ont interné parce que ils l'ont interné, ils ont signé. Alors, je ne sais pas si c'était d'office ou pas, mais donc cette personne est restée. Ça faisait plusieurs mois déjà. Et moi, quand je suis parti, ça m'avait beaucoup touché parce que cet orphelin m'a dit toi, t'as des parents, tu peux sortir, moi je vais être obligé de rester ici.
Parce qu'en vérité, si personne ne se bat dehors, c'est un peu la conclusion à laquelle vous arrivez, ça peut durer quoi.
Ça peut durer très très longtemps. Et les gens ne sont pas soignés, donc on les met sous l'ergactine.
Point.
Voilà. Point, c'est un traitement qu'on donne même à des gens qui n'ont jamais pris de médicaments. On donne du Largactil, c'est ce qu'on donnait aux dissidents russes, c'est la même famille de médicaments, pour les tenir tranquilles. Et donc on donne ça à tout le monde, même aux gens qui n'ont jamais pris de médicaments de leur vie, qui ne se sont jamais drogués, qui n'ont jamais bu un verre d'alcool.
Mais c'est ça qui est fascinant, c'est que vous racontez qu'on donne le Largactil aussi bien à vous qui avez un problème d'alcool, voilà, qu'à un bipolaire en crise maniaque, qu'à un schizophrène en crise, qu'à quelqu'un dont on ne connaît pas la pathologie. Même Médoc.
Ouais. Exactement.
Alors, les psychiatres, au moment où vous êtes interné, c'est pas la première fois que vous en voyez, vous racontez que vous en avez croisé de bons et de mauvais. Il y en a une, en fait, qui est partie à la retraite au moment où ça commence à coller entre vous. Ça, c'est un gâchis terrible.
Oui, c'est un gâchis terrible. C'est une psychiatre que j'aimais beaucoup parce que, justement, elle ne m'accusait pas de boire trop, elle essayait de trouver des solutions. Elle savait que c'était très très difficile d'arrêter de boire, alors parfois elle me disait « bon bah si vous buvez, prenez un peu de Valium, mais prenez-en moins ». On trouvait des solutions, on pouvait discuter, une discussion sereine. Alors que les autres, c'était des engueulades perpétuelles, et je peux même vous dire que le jour où j'allais chez le psychiatre était le jour où je buvais le plus. Donc, ce n'était pas efficace du tout. Et on m'avait bourré de médicaments et ça ne servait à rien. C'était vraiment très dommage, effectivement. Oui.
Donc, votre avis général sur les psychiatres, c'est un truc qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a parfois des bons, et si je vous lis bien, beaucoup de charlatans.
Beaucoup de charlatans, et je pense surtout qu'il y a, vous savez, il y a eu des suicides dans cet hôpital, 3 en 4 ans, ce n'est pas rien. Les psychiatres qui internent des gens qui n'ont rien fait, et il y en a énormément, parce que là, il y a quasiment 100 000 personnes qui sont internées à la demande d'un tiers. Donc cela, c'est pas sur la demande d'un juge. Donc c'est pas des gens qui ont commis des actes délictueux. Je considère que les psychiatres qui internent à tour de bras des innocents sont quelque part des criminels. Je suis désolé, mais quand on incarcère quelqu'un qui n'a rien fait, c'est un crime.
Et la loi de 2011, quand on vous suit, ne sert pas à grand-chose. Elle a instauré ce passage devant le juge des libertés et de la détention, qui est le même juge qui voit les détenus pour les faire sortir de prison, mais oui, le résultat est zéro.
Le résultat est le même. Alors, cette loi, c'est la loi Sarkozy qui avait fait cette loi sous le coup de l'émotion, car il devait y avoir une affaire où un schizophrène avait poignardé une infirmière ou une aide-soignante, mais ça ne sert à rien.
Donc c'était plutôt une loi pour ne pas les faire sortir que pour aider les gens à sortir.
Voilà, en réalité c'est une mascarade. Que des juges participent à cette mascarade, c'est totalement dommage, sachant qu'ils sont eux aussi, quelque part dans leur métier, sous le joug des psychiatres.
En vérité, il faudrait un expert indépendant, c'est-à-dire qu'un psychiatre indépendant puisse vous voir en consultation et juger de lui-même si le psychiatre qui maintient la détention a raison ou pas.
Voilà, ça ce serait une idée, mais Christophe Ondelat, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Les gens qui n'ont pas besoin d'être internés, on ne les interne pas.
Mais en général, ceux qui sont internés ne savent pas s'ils ont besoin ou pas. C'est-à-dire que c'est plus compliqué que ça. Un schizophrène en crise va vous dire qu'il n'a pas besoin d'être interné.
Bien sûr. Là, je vous parle des gens qui ont un petit peu bu, des gens qui ont eu une parole malheureuse. Mais on parle de parole, on parle de boire de l'alcool, on parle d'un cri, on ne parle pas d'une agression. On parle de gens qui sont innocents aux yeux de la loi.
Est-ce qu'il y a eu un retour de l'institution? Parce que votre livre a un petit succès.
Oui.
Donc je suppose que ça a dû remonter.
Alors écoutez, je suis très étonné. J'ai beaucoup de témoignages sur Facebook de gens à qui c'est arrivé. Donc des gens qui me soutiennent à 500%.
Mais le système?
Pas un seul psychiatre.
Ouais.
Je n'ai absolument aucune nouvelle et pourtant c'est un scandale national. Je ne comprends pas. Je n'ai pas de nouvelles de cette institution, je n'ai pas de nouvelles des psychiatres, je n'ai pas de retour de l'hôpital Henriet.
La torture entre la tête sous la coquille.
Voilà.
Merci infiniment Marius Geoffrey, je rappelle le titre de votre livre qui s'appelle Le Fumoir et qui paraît aux éditions Anne Carrière.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.